Réponse, s'il vous plaît, éteignez vos portables ou mettez-les sous mode silencieux. Nous commençons aujourd'hui par Kinshasa, une dame de préférence, c'est la journée des femmes. Voilà, au fond. Merci, madame.
Merci. C'est Christiane Ekambo pour le journal des Nations.net et Africa News. Ma question s'adresse bien entendu à Madame Françoise, la représentante de l'ONU Femmes. Madame, on ne vous voit pas souvent au point de presse de la MONUSCO pour faire ne fût-ce qu'un compte rendu des réalisations de femmes. Vous ne pensez pas qu'une fois l'an, c'est vraiment insuffisant pour qu'on puisse parler de la femme. Vous-même, vous l'avez dit que vous n'avez pas, ce n'était pas... vous n'aviez pas assez de temps pour tout dire. Deuxièmement, je voulais, vous avez dit que l'ONU Femmes est en phase de mutation, et un accent particulier est mis en ce qui concerne l'autonomisation de la femme. Mais en même temps, vous avez vous-même fait le constat que la femme meurt, la femme dans les pays sous-développés et même en RDC ici, la femme meurt au moment de l'accouchement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait mettre un peu plus de fond en ce qui concerne la maternité de la femme pour qu'elle soit en bonne santé? Je vous remercie, madame.
Oui, merci. Avant de passer la parole à madame Françoise, je voudrais tout simplement vous rassurer, madame, que dans la nouvelle dynamique enclenchée en 2016 pour notre cycle de conférences hebdomadaires verra la participation de manière beaucoup plus assidue de tous les chefs d'agence qui passeront à tour de rôle ici partager des informations. Madame, vous avez la parole.
Merci. On tient compte de cette observation. Si les gens se souviennent, il y avait un nommé Franck Kamunga qui venait régulièrement. Donc ça a été une période où on n'a pas pu être présent, mais peut-être pas par la radio, mais à la télévision, je crois que nous apparaissons souvent, et aussi par d'autres moyens de communication comme les journaux, les couvertures médiatiques. Mais qu'à cela ne tienne, ce qui est important aussi, c'est de réaliser des programmes tout en respectant le droit à donner l'information. Donc je vous remercie pour cette question qui je crois est claire. Bon, maintenant par rapport aux mutations, l'autonomisation de la femme, c'est une grande mutation. En fait, quand on parle de femmes qui meurent en couche, c'est une vue macroéconomique au niveau du gouvernement où il faut considérer ce problème. Ça veut dire clairement le pourcentage affecté à ce secteur. Donc, je crois que c'est une préoccupation du gouvernement, et c'est réglé pas nécessairement par le ministère du genre ou l'ONU Femmes ou l'UNFPA, mais ça doit être réglé au niveau du ministère de la Planification, de la Santé et même des Affaires Sociales. Donc, je crois que c'est ainsi que nous disons qu'il faut prendre un recul et voir comment traiter un problème au niveau le plus élevé possible pour assurer premièrement la durabilité et aussi assurer l'impact. Je vous remercie.
Merci. Une deuxième question ici à Kinshasa. Donnez le micro sur la droite, oui.
Merci, Albert Omba, Numérica TV. Monsieur le porte-parole, il y a un groupe à gestation qui fait les tours des autorités académiques pour régler un peu la question chaude de relations qui chauffent entre la communauté Nandé et la communauté Hutu dans la limite du territoire de Rutshuru et de Lubero. Est-ce que la MONUSCO qui gère cet espace a-t-elle un programme aussi précis pour s'associer à cette démarche qui vise à apaiser un peu les esprits dans cette contrée?
Merci pour cette préoccupation qui d'ailleurs nous concerne tous d'abord, parce que c'est un problème interethnique qui, comme vous le savez, depuis un certain temps a été observé, particulièrement dans la période couvrant le mois de novembre jusqu'à ce jour. Donc ces conflits interethniques, particulièrement au sud du territoire de l'Obero, qui s'est aggravé du fait de l'implication de certaines milices affiliées à ces communautés qui se font la guerre et qui, bien entendu, sèment la désolation, mais aussi provoquent des déplacements de populations civiles. Au niveau de la MONUSCO, toutes les initiatives ont été lancées, notamment d'abord faciliter le dialogue intercommunautaire par les autorités provinciales, locales, coutumières et religieuses interposées. Nous appuyons aussi toutes les autorités et toutes les bonnes initiatives pour que très rapidement la coexistence pacifique qui a toujours prévalu entre ces communautés dans cette partie de la province du Nord Kivu puisse continuer. Et nous appelons aussi tous les groupes armés qui sont affiliés à telle ou telle communauté à déposer des armes et à leur demander tout simplement de laisser les autorités congolaises, provinciales, locales et nationales prendre en compte ce problème-là. Évidemment, vous avez raison, il y a une délégation qui sillonne aussi bien la province du Nord Kivu que Kinshasa. Et à la tête de cette délégation, nous avons M. Vital Kamerhe, qui est le président de l'Union nationale congolaise. Cette délégation, composée aussi bien des hommes politiques que des représentants coutumiers de ces communautés, ont rencontré le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, mais aussi d'autres partenaires de la République démocratique du Congo, pour que nous puissions aplanir cette divergence-là qui commence non seulement à durer, mais qui commence à agrandir le nombre de victimes dues justement à ces incompréhensions. Il faut relever que ces deux communautés ont vécu pendant très longtemps et il faudra que la paix revienne pour le développement de cette contrée. Merci. Nous allons tout de suite à Goma pour prendre deux questions. Goma, vous avez le micro.
Merci. Monsieur, vous avez la parole.
Allez-y. Merci pour l'expression. C'est Darrell Maurice, TV Canal 7 King Télévision et Tech Magazine. Deux petites questions. Monsieur Basse, l'appui au niveau des Lubero ne nous suffit pas. Il faut réagir parce que vous en savez vous-même que la protection fait partie de votre mandat. Et pour madame, au fait, Onifam, vous avez formé pas mal de femmes en République démocratique du Congo. Mais peut-on maintenant avoir une idée sur les taux des femmes candidates en RDC? Merci.
Oui, merci. Donc, je prends note de votre insatisfaction, mais permettez-moi aussi de vous rappeler que la paix, c'est l'affaire de tous, et je vous inviterai aussi, journaliste, à prendre vos plumes et de pouvoir contribuer justement à la résolution de ce conflit interethnique. Madame, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je crois qu'on ne peut pas aller plus vite que la CENI. La liste des femmes candidates n'est pas encore connue, à moins que je ne me trompe. Donc, mais ONUFEM a des programmes de formation des femmes candidates potentielles. Ça veut dire ceux qui expriment un certain besoin. Et nous allons instaurer ce qu'on appelle la hutte ou bien la case de réflexion où on va dispatcher, où on va mettre toute l'information concernant les élections, parce qu'il y en a même qui, parmi les femmes qui sont analphabètes et qui peut-être voudraient se faire les lire. Et il y en a beaucoup qui élisent même sans comprendre les enjeux. Alors, nous allons essayer de trouver des solutions à ce problème. Nous sommes en contact direct avec la CENI. Et je crois qu'il y a une ressource que nous allons mettre à la disposition de la CENI pour faire un suivi très pointillé sur cette question des femmes candidates. Et nous allons également encourager les femmes qui avaient été élues d'essayer de partager leurs expériences avec les femmes qui ne sont pas encore élues. Et nous allons également sensibiliser les chefs de partis politiques pour qu'elles mettent les femmes sur les listes Et cela dans le respect de la Constitution, qui est très claire, qui parlait de 50-50 au niveau de la parité, mais dont les mesures de mise en œuvre n'avaient pas été spécifiées. Donc, au niveau des élections, c'est cela notre vision.
Oui, merci. Une deuxième question à Goma.
Je m'appelle Justin Kisumungeli. Je suis journaliste à la radio communautaire de Walikale. Bien, j'ai deux petites questions. La première s'adresse à...
Une question, s'il vous plaît. Excusez-moi, une question par journaliste. Oui.
Merci, Félix. Au fait, j'ai bien suivi avec intérêt l'intervention du porte-parole militaire de la MONUSCO, le lieutenant-colonel Martin. Bien évidemment, Félix, si, dis-moi, la population de certaines localités de Walikale et dans les coins communément appelés les ventres mous de l'insécurité, ces populations avaient négocié à la MONUSCO à ce qu'on puisse même installer une base de la MONUSCO, surtout dans les villages là, les plus insécurisés, entre autres Toto, Malembe et dans les groupements Oussala et Kobo. Qu'en est-il au juste, d'autant plus que la population souffre, franchement?
Oui, monsieur, mon colonel.
Merci beaucoup. La situation dans les localités dont vous venez de citer, si je prends la situation de Ntoto, vous savez que Ntoto a été dévasté par les groupes armés il y a, disons, en août-septembre dernier. Et la MONUSCO avait dépêché des hommes sur le terrain là-bas pour pouvoir sécuriser et ramener la paix. Le village était vide, carrément vide. Mais quand la MONUSCO avait fait son déploiement, les populations sont revenues. Et les populations ont demandé une couverture de communication. La MONUSCO a négocié auprès de la société Vodacom pour qu'elle puisse installer une antenne à Ntoto. Et l'antenne a été installée. Et quand vous allez à Ntoto aujourd'hui, vous pouvez communiquer facilement. Mais cependant, la MONUSCO, après avoir rétabli la sécurité à Ntoto, a fait déplacer sa compagnie qu'elle avait déployée. Mais régulièrement, une ou deux fois par mois, nous envoyons des patrouilles à longue distance. Ils y vont pour faire une semaine et pour revenir. L'effectif de la MONUSCO ne pourra pas couvrir toutes les localités du Congo. Donc nous envoyons des patrouilles, des sections de 30 ou 50 hommes dans des localités inaccessibles. Ils y vont, ils séjournent pendant une à deux semaines, ils reviennent et ainsi de suite. C'est comme ça que nous arrivons à couvrir ces localités inaccessibles. Merci.
Oui, merci. Peut-être juste pour compléter et éclairer la lanterne de mon collègue à Goma, l'ouverture ou l'installation des bases opérationnelles de la MONUSCO, qu'elles soient temporaires ou qu'elles soient juste des bases de combat pour une semaine ou deux, tient à d'abord une analyse de la situation sécuritaire, mais aussi tient compte des priorités que nous nous assignons dans le cadre de la protection des populations civiles. Évidemment, notre préoccupation est située entre le territoire de Walikale, le territoire de Rutshuru, le territoire de Masisi, le territoire de Beni, où, comme vous le savez, aussi les demandes sont fortes quant à la présence de la MONUSCO. Donc le colonel vous l'a dit, nous sommes intervenus dans la localité de Ntoto, mais pas seulement dans le Ntoto, parce que vous savez que dans le Walikale, nous avons aussi ce conflit récurrent entre les éléments Maïmaï Tcheka et les éléments NDC Guidon rénovés. Donc il y a une aile dissidente de Tcheka qui se font la guerre, et bien sûr avec des répercussions que nous connaissons tous en termes de souffrance infligée aux populations civiles. Mais aussi, c'est dans le cadre de la protection des populations civiles que nous sommes intervenus auprès de des services Vodacom pour mettre en place un système d'alerte précoce qui permette aux populations de nous saisir le plus rapidement possible afin que nous puissions projeter des troupes pour prendre en compte la menace sécuritaire qui se poserait éventuellement à eux. Donc oui, nous sommes conscients de la situation dans cette partie du pays, mais aussi il faut être réaliste. Réaliste dans la mise en œuvre de nos plans, réaliste dans la conduite de nos opérations, réaliste aussi dans les mécanismes que nous mettons en place pour protéger les populations civiles. Je l'ai dit ici lors de la dernière conférence de presse, nous voudrions bien être partout, mais ce qui est impossible. Vous connaissez les dimensions géographiques du terrain, du pays, vous connaissez aussi les rigueurs du terrain et nous faisons du mieux que nous pouvons pour protéger les populations civiles. Retour ici à Kinshasa pour prendre deux questions. Je privilégie aujourd'hui les dames.
C'est Dédé Ndomba pour la RTNC Radio. Ma question, je l'adresse à Madame Françoise Nguenda-Hayo. Madame, quelle est la politique mise en place par l'ONU Femmes pour combattre la pauvreté chez la femme?
Oui, Madame, vous avez la parole.
Bon, merci de la question. C'est une question très, très vaste et très large. ONU Femmes se joint à d'autres agences. Agences sœurs et pour appuyer le gouvernement pour combattre la pauvreté. C'est de cela qu'il faut plutôt parler. Et en termes de lutte contre la pauvreté, c'est une thématique qui a été débattue au niveau de l'Afrique, au niveau mondial, au niveau de la RDC, au niveau de la sous-région, jusqu'à utiliser la terminologie féminisation de la pauvreté, parce que le secteur informel, le secteur non documenté est composé principalement des femmes qui ne parviennent pas à atteindre le secteur formel. Donc comme je l'ai dit, on a fait une imitation, on va s'occuper de la question économique, mais d'un angle, dans notre niveau. Ça veut dire qui est responsable de la pauvreté des femmes. C'est une question que je pose. Qui est responsable? Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est l'homme? Ou c'est qui? Donc c'est à travers ce questionnement que nous allons travailler. Peut-être que nous avons vu qu'il faut changer de direction. Alors, je ne peux pas dire plus que ça, parce que c'est clair. Alors maintenant, si les responsables, maintenant si tout un chacun connaît sa place pour résoudre cette thématique, il reste à définir des stratégies. Nous avons une politique nationale genre. Mais à côté de ça, nous avons une politique nationale de l'agriculture qui n'exclut pas la femme, de la santé qui n'exclut pas la femme. Donc maintenant, c'est au niveau de la plaidoirie, c'est au niveau de recentrer la place de la femme dans l'économie nationale, voir ce qu'elle apporte, voir si elle stoppait de travailler, si un jour elle disait je fais grève, je ne vais pas cultiver, qu'est-ce qui adviendrait? Et essayer de maintenir ses acquis et essayer de capitaliser tout ce qu'elle produit pour que ça ait des retombées encore plus importantes, encore plus bénéfiques pour le pays. On a montré par exemple que, en tenant compte de la question de la femme, les revenus agricoles accroissent de 20% de plus. Si on a vraiment bien tenu compte de la femme, c'est une étude qui a été menée par la FAO. On peut étendre ça à d'autres secteurs. Et je crois que vous convenez avec moi que c'est une question plus large et qui peut être, qui peut faire même, objet d'un séminaire.
Oui, merci madame. Donc j'exprime tous mes remerciements aussi à la rédaction de Radio Okapi à qui je vais rendre l'antenne, mais nous poursuivrons ces échanges encore pour une dizaine de minutes compte tenu de l'importance du sujet, la Journée internationale de la femme, mais aussi de notre invité de marque d'aujourd'hui. Donc je prends une deuxième question à Kinshasa. Messieurs, permettez-moi de donner le micro aux dames d'abord, à tout seigneur, tout honneur. Désolé. Oui, RFI.
Sonia Rollet de RFI. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a visité les camps de déplacés de Kichanga. Et on a appris la semaine dernière qu'une trentaine de huttes avaient été détruites par la police dans l'un de ces camps. Quelle est la réaction de la MONUSCO et est-ce que vous savez un petit peu le cadre de cette destruction de maisons de déplacés?
Oui, merci. Je suis au regret de vous dire que je n'ai pas cette information-là. Mais ce que je peux tout simplement dire, c'est que le secrétaire général des Nations Unies, lors de son passage en RDC, particulièrement à Kichanga, avait clairement exprimé auprès des autorités provinciales de mettre en veilleuse cette décision, cette initiative qui concernait la fermeture de tous les camps de déplacés, le temps que des solutions puissent être trouvées. Donc, mais je chercherai cette information pour vous. Je ne suis pas au courant que une trentaine de huttes ont été brûlées, mais je pense que dès que nous aurons quelque chose, nous partagerons avec vous. Mais nous restons très préoccupés par la situation des réfugiés, pas seulement dans la province de Nord Kivu, dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo, parce que vous savez que ces déplacés l'ont été contre leur gré du fait justement de la violence qui a été observée et qui continue d'être perpétrée par les groupes armés, mais nous attelons avec l'espoir de cette reprise de coopération militaire. Nous attelons avec les forces de défense et de sécurité congolaises à mettre un terme à toutes ces activités négatives, à neutraliser de manière définitive tous ces fauteurs de troubles que nous avons, que le colonel Martin nous a bel et bien décrit ici au cours de cette conférence de presse. Donc je repars à Goma pour prendre deux questions. Goma, vous avez le micro.
Alors, mon nom c'est Frédéric Ferouz et je m'adresse une fois encore à Madame Françoise. Et selon certains militants de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision, les combats ne peuvent être gagnés dans ce domaine et dans les milieux ruraux et que si il y a une forte alphabétisation dans les milieux ruraux qui sont généralement défavorisés ici en RDC. Et si vous adoptez ce point de vue de ces militants des droits des femmes, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'ONIFEM pour que cette représentativité ou bien l'intégration de la femme dans les milieux ruraux soit effective et soit une réalité?
Oui, merci.
J'ai déjà apporté quelques réponses d'ordre général par rapport à l'approche d'ONIFEM pour cette thématique. Premièrement, quand on va vers le milieu rural, et il faudrait penser quelle est la priorité de la femme rurale. Et si on doit analyser la pyramide de besoins, c'est que peut-être se faire les lire ne vient pas en priorité. Parce que souvent, il y a la majorité des femmes, et souvent les femmes les plus démunies, ou bien qui n'ont pas cette ambition politique, qui pensent d'abord aux besoins de survie, avant de passer à l'étape des besoins d'être élus. Mais il faut voir le problème à deux niveaux. D'abord, le souhait d'être élu, mais ensuite, à un autre niveau, élire la femme. Et souvent les questions qui sont posées sont, entre autres, pourquoi la femme est majoritaire mais qu'elle n'élise pas d'autres femmes, elle n'élise pas les femmes. Ça, c'est une question qui est beaucoup posée, pas seulement en Afrique ou bien à RDC Congo, mais qui est posée aussi au niveau international. Pourquoi est-ce que la femme n'élit pas la femme? Est-ce que c'est par préjugé, parce que elle a été élevée dès le jeune âge à croire que la femme ne peut pas, n'a pas les capacités, ou bien parce qu'elle n'a pas vu suffisamment de femmes qui sont exposées, qui ont été exposées et qui ont fait des preuves. Alors, je crois que si Mme Thatcher devait revenir, peut-être on pourrait la réélire, parce qu'elle a pu quand même montrer des capacités. Alors, pour la femme rurale, avec les combats réguliers qu'elle mène, pour la survie, est-ce qu'elle va consacrer son temps pour amener l'enfant à l'école, pour préparer à manger, pour faire tout ça, en vue d'aller poser pour une candidature sans moyens, sans quoi. Là, je vous dis les choses telles qu'elles se présentent. Mais nous avons envie, nous avons non seulement envie, nous avons le mandat, nous avons le devoir de faire changer les choses. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas devenir candidat, mais vous savez que les élections ont un coût psychologique, un coût même au niveau de relation avec l'homme, un coût en termes de finances. Donc tout ça, ce sont des problèmes auxquels nous sommes habitués, mais que nous allons essayer de faire je dirais, ensemble avec le gouvernement, la CENI, surtout les associations des femmes et même les partis politiques. Je vous remercie.
Oui, merci madame. Permettez que je rebondisse un peu sur ce que vous avez dit en interpellant justement les femmes de Goma. Depuis que nous avons commencé cette conférence de presse, ce sont les hommes qui posent les problèmes des femmes à madame. S'il vous plaît, relevez le défi à Goma pour la deuxième question que je vous accorde. Bon, alors un homme pour prendre cette question-là par défaut. Oui, une deuxième question à Goma. Allons-y plus vite, le temps presse.
Voilà, moi c'est Patrick Félix Abeli. Je ne vais pas tellement rebondir au sujet de la femme, parce qu'à chaque fois la femme se lamente toujours, il n'y a pas toujours des avancées. Le cas du Maniema, il n'y a pas une représentativité des femmes. Alors, revenons au Nord Kivu pour parler de l'aspect sécuritaire. La fois passée, les policiers ont fui, ce que moi je qualifie la fuite dans les territoires de Masisi. Ils ont fui l'insécurité causée par les groupes armés. Alors, quand les forces gouvernementales parviennent à fuir un millier, que soi-disant l'insécurité est causée par les forces négatives, et vous, la MONUSCO, vous êtes là dans votre mandat protection des populations civiles, vous pensez que chaque fois revenir protection, ça ne semblerait pas être compliqué pour vous?
Oui, merci. Donc d'abord, je vous interpellerai pour un peu plus de considération pour les forces de défense et de sécurité congolaises qui, comme vous le savez, se battent nuit et jour pour restaurer l'autorité de l'État, protéger les populations civiles. Et je vous inviterai, vous journalistes, à descendre un peu plus souvent sur le terrain pour vous rendre compte des conditions dans lesquelles ces hommes font leur travail, qui n'est pas un travail facile. Je pense qu'ils méritent un peu plus de considération et un peu plus de respect au lieu de parler de fuite. Je ne pense pas que nous ayons la même approche de ce que vous appelez fuite. Vous savez, dans l'armée, il y a ce qu'on appelle aussi le repli stratégique ou le repli tactique lorsqu'on est conscient que nous sommes 2 ou 3 ou 4 policiers pour prendre en compte la sécurité de dizaines de milliers d'individus et que l'ennemi que nous avons en face se retrouve plus fort. Il est tout à fait logique que l'on puisse, dans le cadre d'un repli tactique, aller se réorganiser, se renforcer pour revenir avec plus de force prendre en compte la menace sécuritaire. Donc ça, c'est la première précision que je voudrais apporter et je vous inviterai non seulement à... Je vous invite à critiquer tout le monde, la MONUSCO et les forces de défense et de sécurité, ça nous permet non seulement de revoir nos plans, mais aussi de nous améliorer quant aux mécanismes que nous mettons en œuvre pour protéger les populations civiles. Mais je vous demande tout simplement d'aller constater de visu dans quelles conditions ces gens vivent d'abord, dans quelles conditions ils exécutent leur travail, au lieu de leur jeter la pierre à première vue. La deuxième chose que je voudrais préciser, et il faudra que ce soit clair, je pense que même dans le cadre de l'arrangement technique que nous avons récemment signé le 28 janvier avec les autorités congolaises, il est clairement dit que la souveraineté de l'État congolais doit être respectée, mais cette souveraineté s'accompagne aussi de la prise de responsabilité, notamment la protection des populations civiles congolaises qui incombe au premier chef aux forces de défense et de sécurité congolaises. La MONUSCO et les autres partenaires sont là pour appuyer ces efforts, pour qu'ensemble nous puissions aller vers l'essentiel qui est de protéger les populations civiles. Donc oui, la MONUSCO dit oui, protection des populations civiles, mais pas seule, avec les forces de défense et de sécurité congolaises, mais aussi avec les populations dont le soutien est primordial. Parce que il est bien beau de dire oui, vous avez la responsabilité, mais je peux vous dire que notre engagement est sans faille, notre détermination est sans équivoque, et en étroite collaboration avec les forces de défense et de sécurité congolaises, nous mutualisons nos efforts, nous mutualisons nos moyens, nous travaillons en étroite intelligence pour que nous puissions à terme mettre définitivement fin à toutes ces exactions que nous observons. Merci. Donc je reviens ici à Kinshasa pour prendre une dernière question. Oui.
Thierry Maille de l'Agence congolaise de presse. Monsieur le porte-parole, vous avez parlé d'une délégation qui sillonne actuellement le nord et le sud Kivu pour essayer de résoudre ce problème interethnique entre les Nandais et les autres groupes. Mais ce problème est accentué, j'allais dire même instrumentalisé, par le fait qu'on ne parvient pas à recenser les populations de cette partie du pays. Dernièrement, la Commission nationale pour les réfugiés a recensé les populations tout autour de Masisi, Rutshuru et les autres. Ils ont recensé à peu près 28 000 populations. Mais il y a un problème, c'est la carte des lecteurs qui est possédée par tout le monde. Comment vous, ensemble avec le gouvernement, vous allez résoudre ce problème d'identification des populations dans cette partie du pays, alors qu'il n'y a que les Hutus qui sont recensés, identifiés, et les Tutsis peuvent entrer comme ils veulent. Je vous remercie.
Oui, merci, mais je pense d'abord que ces propos n'engagent que vous, que ce sont que les Hutus qui sont recensés. Je voudrais que chacun assume ses propos. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que d'abord, il faut relever que les conflits intercommunautaires ne concernent pas que la province du Nord Kivu, c'est tout le pays qui est concerné. Que vous alliez au Katanga, vous aurez les Pygmées contre les Baloubakat. Que vous alliez à Nituri, vous aurez les Emma et les Ngiti et d'autres. C'est un problème fondamental, un problème réel du Congo, ces problèmes interethniques, ces problèmes intercommunautaires. La responsabilité, justement, de la solution à ces problèmes est une responsabilité collective, aussi bien des autorités que des populations, que des journalistes que vous êtes. Je pense que il faut très rapidement que tous les moyens soient mis en œuvre pour que nous puissions ramener toutes ces communautés qui vivent des différends, qui provoquent aussi des morts d'hommes, des déplacements de population et même, je dirais, la misère et la désolation dans ces zones-là. Maintenant, l'identification ou le recensement de la population, d'abord, est une initiative volontaire des autorités de ce pays. Faire le point pour savoir on est combien, je ne pense pas que ce soit la responsabilité des Nations Unies. Les Nations Unies se tiennent prêtes à accompagner. Parce que je vous pose tout simplement une question qui relève une difficulté majeure. Si vous ne savez pas, vous êtes combien dans votre maison, votre famille, je ne sais pas comment est-ce que vous planifiez la nourriture. Si vous ne savez pas que vous êtes 10, pour savoir à la fin du mois, il faut combien de sacs de foufou pour que tout le monde puisse manger, je pense que la première difficulté relève de ça. Donc il faudra qu'on puisse aussi établir les responsabilités de part et d'autre. Nous sommes prêts, les Nations Unies, par toutes les agences et toutes ces structures présentes ici en République démocratique du Congo, à accompagner les autorités congolaises dans cette volonté d'identifier et d'avoir si vous voulez, une cartographie précise des populations, aussi bien dans leur entité où elles vivent, que au plan national, pour permettre quand même un suivi et une planification rigoureuse des ressources qui seront mises à la disposition des populations pour un développement ou une vie meilleure que ce que nous voyons. Donc les Nations Unies sont sur le terrain avec les autorités et nous continuons à aider. Je ne sais pas si Madame de ONU Femmes a quelque chose à rajouter sur cette dernière question qui nous a été posée.
Non, comme ça n'engage que, son auteur.
Comme ça n'engage que son auteur, eh bien, c'est sur cette note sans commentaire de Madame que je mets fin à cette conférence de presse. Merci d'avoir été nombreux et à mercredi prochain.